Vie bionique. Il existe une autre technologie nouvelle qui pourrait changer les lois de la vie, le génie cyborg. Les cyborgs sont des êtres qui mêlent parties organiques et inorganiques, par exemple un être humain avec des mains bioniques. En un sens, nous sommes presque tous bioniques désormais puisque nos sens et nos fonctions naturelles sont complétés par des appareils divers, lunettes, pacemakers, orthèses et même ordinateurs et téléphones cellulaires, qui soulagent partiellement nos cerveaux du poids du stockage et du traitement des données. Nous sommes sur le point de devenir de vrais cyborgs, avec des traits inorganiques indissociables de nos corps, des traits qui modifient nos capacités, nos désirs, nos personnalités et nos identités. La Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, agence américaine de recherche militaire, crée des cyborgs à partir d'insectes. L'idée est d'implanter dans le corps d'une mouche ou d'un cancrelat des puces électroniques, des détecteurs et des processeurs qui permettront à un opérateur humain ou à un automate de contrôler les déplacements de l'insecte pour absorber et transmettre des informations. Une mouche de ce genre pourrait se poser sur le mur du QG ennemi, épier ses conversations les plus secrètes et, à moins de tomber entre les pattes d'une araignée, pourrait nous informer exactement de ce que prépare l'ennemi. En 2006, l'US Naval Undersea Warfare Center a fait part de son intention de mettre au point des cyborgs requins en déclarant « Le NUWC met au point un marqueur des poissons, #, dont le but est de contrôler le comportement des animaux marqués à travers des implants naturels. Les chercheurs espèrent identifier les champs électromagnétiques des sous-marins et des mines en exploitant les facultés de détection magnétique naturelle des requins supérieures à celles des détecteurs artificiels. » Les sapiens sont eux aussi transformés en cyborgs. Les appareils auditifs de la toute dernière génération sont parfois présentés comme des oreilles bioniques. Le système consiste en un implant qui absorbe le son par un micro placé dans la partie extérieure de l'oreille. L'implant filtre les sons, identifie les voix humaines et les traduit en signaux électriques directement envoyés aux nerfs auditifs et de là, au cerveau. Retina Implant, société allemande parrainée par les pouvoirs publics, met au point une prothèse rétinienne qui peut rendre à des aveugles une vision partielle. L'opération consiste à implanter une micropuce dans l'œil du patient. Des photocellules absorbent la lumière qui tombe sur l'œil et la transforment en énergie électrique, stimulant ainsi les cellules nerveuses intactes de la rétine. Les impulsions nerveuses de ces cellules stimulent le cerveau, où elles sont traduites en vue. Pour l'instant, la technologie permet aux patients de s'orienter dans l'espace, d'identifier des lettres et même de reconnaître des visages. En 2001, un accident coûta les deux bras jusqu'à l'épaule à l'électricien américain Jesse Sullivan. Aujourd'hui, grâce au Rehabilitation Institute of Chicago, il est muni de deux bras bioniques. La singularité de ces nouveaux bras est qu'ils sont actionnés par la seule pensée. Des micro-ordinateurs reçoivent les signaux neuronaux qui arrivent du cerveau de Jesse et les traduisent en commandes électriques qui font bouger les bras. Quand Jesse veut lever le bras droit, il fait ce qu'une personne normale fait inconsciemment. Ses bras peuvent accomplir un éventail beaucoup plus limité de mouvements que les bras organiques, mais ils lui permettent d'exécuter des fonctions quotidiennes simples. Un bras bionique semblable a été dernièrement posé sur Claudia Mitchell, militaire américaine qui avait perdu le bras dans un accident de moto. Les chercheurs pensent que nous aurons bientôt des bras bioniques qui pourront non seulement bouger quand nous le voulons, mais aussi transmettre des signaux au cerveau, permettant ainsi aux amputés de retrouver même la sensation du toucher. Pour l'heure, ces bras bioniques sont un piètre substitut de nos originaux organiques, mais leur développement potentiel est illimité. Par exemple, on peut faire des bras bioniques bien plus puissants que leurs parents organiques. En comparaison, même le champion de boxe aura l'air d'un gringalet. De plus, les bras bioniques ont l'avantage de pouvoir être remplacés régulièrement ou détachés du corps et actionnés à distance. Les chercheurs de Duke University, en Caroline du Nord, en ont fait la démonstration avec des macaques rhésus dans le cerveau desquels ont été implantées des électrodes. Celles-ci recueillent des signaux du cerveau qu'elles transmettent à des appareils extérieurs. Les macaques ont été entraînés à contrôler par la seule pensée les bras et jambes bioniques détachés. une femelle macaque, Aurora, a appris à contrôler par la pensée un bras bionique détaché tout en bougeant simultanément ses deux bras bioniques. Telle une déesse hindoue, Aurora a désormais trois bras, lesquels peuvent être situés dans des pièces, voire des villes différentes. Assise dans son labo de Caroline du Nord, elle peut se gratter le dos avec un bras, la tête avec sa deuxième main et, au même moment, chaparder une banane à New York, même si la faculté de manger un fruit dérobé à distance demeure un rêve. En 2008, une autre macaque rhésus, Idoya, est devenue une célébrité mondiale en contrôlant par la pensée une paire de jambes bioniques à Kyoto, au Japon, depuis sa chaise de Caroline du Nord. Les jambes en question pesaient 20 fois son poids. Dans le syndrome d'enfermement, une personne perd entièrement ou presque la faculté de bouger la moindre partie de son corps alors que ses facultés cognitives demeurent intactes. Jusqu'à maintenant, les patients qui souffrent de ce syndrome n'ont pu communiquer avec le monde extérieur que par d'infimes mouvements des yeux. Dans le cerveau de quelques patients, cependant, on a pu implanter des électrodes recueillant les signaux cérébraux. Des efforts sont réalisés pour traduire ces derniers non seulement en mouvements, mais aussi en mots. Si les expériences réussissent, les patients atteints de ce syndrome pourraient enfin parler directement avec le monde extérieur et nous pourrions finalement nous servir de cette technologie pour lire dans l'esprit des autres. De tous les projets en cours, cependant, le plus révolutionnaire est l'effort pour mettre au point une interface directe à double sens entre cerveau et ordinateur. Celle-ci permettra aux ordinateurs de lire les signaux électriques d'un cerveau humain tout en transmettant des signaux que le cerveau peut lire. Et si l'on utilisait ces interfaces pour rattacher directement un cerveau à l'Internet, ou relier plusieurs cerveaux les uns aux autres, créant ainsi un intercérébro-net. Qu'adviendrait-il de la mémoire, de la conscience et de l'identité humaine si le cerveau jouissait d'un accès direct à une banque de mémoire collective? Dans une telle situation, un cyborg pourrait, par exemple, retrouver les souvenirs d'un autre. Non pas en entendre parler, s'en informer dans une autobiographie ou les imaginer, non, s'en souvenir directement, comme s'ils étaient les siens à lui ou à elle. Qu'advient-il de concepts comme le soi ou l'identité de genre quand les esprits deviennent collectifs? Comment pourrais-tu te connaître toi-même ou poursuivre ton rêve si le dit rêve n'est pas dans ta tête, mais dans quelque réservoir collectif d'aspiration? Un tel cyborg ne serait plus humain, ni même organique. Ce serait quelque chose de totalement différent. Ce serait un être si foncièrement différent que nous ne saurions même en saisir les implications philosophiques, psychologiques ou politiques. Une autre vie. La troisième voie, pour changer les lois de la vie, consiste à fabriquer des êtres entièrement inorganiques. Les exemples les plus évidents en sont les programmes et les virus informatiques capables d'évolution indépendante. Le domaine de la programmation génétique est aujourd'hui l'un des points les plus intéressants du monde de l'informatique. Son ambition est de prendre exemple sur les méthodes de l'évolution génétique. Beaucoup de programmeurs rêvent de créer un programme d'apprentissage qui puisse apprendre à évoluer en toute indépendance par rapport à son créateur. En ce cas, le programmeur serait un primum mobile, un moteur premier, mais sa création serait libre d'évoluer dans des directions que ni son auteur ni aucun autre homme n'aurait jamais pu envisager. Il existe déjà un prototype de programme de ce genre, ce qu'on appelle un virus informatique. En se propageant dans l'Internet, le virus se reproduit des millions et des millions de fois, tout en étant pourchassé par des programmes antiviraux prédateurs et en disputant à d'autres virus une place dans le cyberespace. Un jour où le virus se reproduit, une erreur intervient, une mutation informatisée. Peut-être la mutation vient-elle de ce que l'ingénieur humain a programmé le virus en sorte que se produisent à l'occasion des erreurs aléatoires de duplication. À moins qu'elle ne soit due à une erreur aléatoire. Si par hasard, le virus modifié réussit mieux à échapper au programme antiviraux sans perdre sa faculté de s'insinuer dans d'autres ordinateurs, il se propagera dans le cyberespace. En ce cas, les mutants survivront et se reproduiront. Avec le temps, le cyberespace finirait par grouiller de nouveaux virus que personne n'a fabriqués et qui suivraient une évolution non organique. S'agit-il de créatures vivantes ? Tout dépend de ce qu'on entend par créatures vivantes. En revanche, ils ont certainement été produits par un nouveau processus évolutif, totalement indépendant des lois et des limites de l'évolution organique. Voyons une autre possibilité. Imaginez que vous puissiez brancher votre cerveau sur un disque dur externe et vous en servir ensuite sur votre portable. Votre portable serait-il capable de sentir et de penser comme un sapiens? En ce cas, serait-il vous ou un autre? Et si les programmeurs informaticiens pouvaient créer un esprit entièrement nouveau mais numérique sur la base des codes informatiques, bien qu'avec un sens du soi, une conscience et une mémoire. Si vous équipiez votre ordinateur de ce programme, serait-il une personne? Si vous l'effaciez, pourrait-on vous accuser de meurtre? Nous pourrions sous peu devoir répondre à des questions de ce genre. Le Human Brain Project, lancé en 2005, espère recréer un cerveau humain complet dans un ordinateur, avec des circuits électroniques imités des réseaux neuronaux du cerveau. Sous réserve de financement suffisant, a assuré le directeur du projet, nous pourrions avoir d'ici une décennie ou deux un cerveau humain artificiel au sein d'un ordinateur capable de parler et de se conduire largement comme un humain. S'il réussit, cela signifierait qu'après 4 milliards d'années passées à grouiller dans le petit monde de la vie organique, la vie fera soudain irruption dans l'immensité du domaine inorganique, prête à prendre des formes qui dépassent nos rêves les plus fous. Bien que tous les chercheurs n'acceptent pas l'idée que le cerveau fonctionne de manière analogue aux ordinateurs numériques, si ce n'est pas le cas, les ordinateurs actuels ne sauraient le simuler. Ce serait folie que de rejeter catégoriquement cette possibilité avant d'avoir essayé. En 2013, le projet a reçu de l'Union européenne une enveloppe d'1 milliard d'euros.